Et on a la joie aujourd'hui d'accueillir Camille qui va nous apporter la parole de Dieu. Et on se réjouit beaucoup. Sois bienvenue, Camille.
Rebonjour. Donc vous avez tous, j'imagine, vu le thème de ma prédication aujourd'hui, Emmanuel, Dieu avec nous. Ça tombe assez bien parce que je trouvais qu'il y avait un contexte assez particulier dont le Seigneur me parlait par rapport à ça. Et ce matin, dans la louange, c'est exactement avec ça que ça s'est déroulé. C'est un contexte guerrier. Souvent, on a l'habitude de parler d'Emmanuel, Dieu avec nous, au contexte de Noël. Donc en fait, il y a des boules, il y a du rouge, du vert, il y a la fête qui se prépare et on pense au bébé qui arrive. Parfois, on peut oublier que le contexte dans lequel Emmanuel, Dieu avec nous, a été annoncé et dans lequel il est venu, c'est un contexte guerrier. Et c'est là-dedans que je voudrais aller. On va regarder d'où ça vient. Donc dans le Nouveau Testament d'abord, même si ce n'est pas d'abord, je sais, d'abord c'était dans l'Ancien Testament que ça a été annoncé, mais dans Matthieu 1, Matthieu raconte la naissance de Jésus et l'avant-naissance de Jésus. Donc Matthieu 1, et donc en fait le contexte c'est que donc Marie est enceinte, elle l'annonce à Joseph, qui est, vous pouvez imaginer, catastrophé. Il ne sait pas quoi faire, il ne sait pas quoi dire, il ne sait pas comment réagir, il doit être aussi émotionnellement vraiment pas bien. Et Dieu vient lui parler dans un songe au travers d'un ange. Et il lui a dit que c'était un enfant qui était conçu par le Saint-Esprit et qui n'ait pas peur de prendre Marie pour femme, qu'elle n'avait pas été infidèle. Donc ça vient rassurer qui il est. Et l'ange, il dit, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Bon, enfin, on ne sait pas si c'est l'ange qui dit ça ou si c'est Matthieu, parce que c'est dans la suite. Mais moi, comme juste après, il dit « Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné », on peut penser que c'est l'ange qui a dit ça aussi, enfin que ce soit l'ange ou Matthieu. C'est ce que le Seigneur nous dit là au travers de Matthieu. Et en fait, Joseph, il a compris ça. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. En fait, il y a une prophétie dans Ésaïe qui parle de ça. On va y retourner un peu, mais en fait, c'est une prophétie qui n'est pas facile. Donc d'abord, quand j'ai reçu de parler de ce thème-là, je dis « Ah, Emmanuel, Dieu avec nous, c'est beau, ça va être sur la consolation, ça va être facile ». Et puis après, je suis allée dans Ésaïe 7 et j'ai dit, non, en fait, c'est vraiment pas facile du tout, parce que c'est complètement incompréhensible. En fait, il faut un master en géopolitique de l'époque pour comprendre Ésaïe 7. Donc, je ne vais pas vous faire la version master de géopolitique de l'époque. Mais en tout cas, c'est vraiment un contexte compliqué dans lequel cette prophétie a été donnée. Mais là, cette prophétie qui a été donnée dans Ésaïe 7, elle est réutilisée par Matthieu, par l'ange, par Dieu en tout cas, pour nous parler de la naissance de Jésus. Et en fait, par là, on voit déjà qu'il y a des prophéties qui ont plusieurs niveaux. Dans Ésaïe 7, quand Ésaïe donne cette prophétie, il ne parle pas forcément d'un temps messianique. Il parle déjà pour la situation de maintenant. Mais des fois, quand on prophétise, il y a des choses qui sont pour maintenant, et des fois, ça dérape. Et ça va plus loin, et le prophète, il comprend pas forcément ce qu'il dit, il comprend pas forcément même la portée exacte de ce qu'il est en train de faire. C'est la même chose pour David, dans certains psaumes, il est en train de parler de « Oh mon âme, bénis l'Éternel » et tout ça, et puis tout d'un coup, « Oh ben oui, il y aura de Sion va sortir un rejeton ». Non, même ça, c'est pas dans David, mais il y a des choses qui sont dans la prophétie qui tout d'un coup concerne pas seulement le temps présent. Et c'est ça qu'on va voir. En tout cas, là, le Seigneur nous dit, Jésus, qui est dans le ventre de Marie à ce moment-là, il est celui dont le Seigneur a parlé, il a annoncé, en disant, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. De la même façon que les prophéties ont plusieurs significations et que nous, on n'est pas, c'est un peu difficile pour nous à comprendre, mais bon, Joseph, il n'avait pas l'air embêté avec ça, ni Matthieu, parce qu'eux, ils ont un mode de pensée pas occidental, français. Donc, ils ont un mode de pensée où ça ne les embête pas qu'on prenne une prophétie et qu'en fait, elle veut dire plusieurs choses à plusieurs temps. Ça ne l'embête pas non plus que de ne pas appeler Jésus Emmanuel. Alors que, bon, nous, si on avait reçu une prophétie pareille, on aurait été un peu... Bon, l'ange dit, tu lui donneras le nom de Jésus. Et après, il y a aussi le fait Emmanuel. Donc, Jésus a plusieurs noms. Il est le Sauveur. Il est le Dieu qui est avec nous. Et il n'y a pas de problème avec ça. Et Dieu l'a annoncé depuis tellement longtemps. C'était prévu. On va aller dans Ésaïe 7. Vous allez comprendre ma difficulté. Ou pas, en fait. On ne va pas forcément... On va pas regarder tout. En fait, le contexte d'Ésaïe 7, c'est qu'en fait, il y a... Akaz, est-ce qu'on prononce Achaz ou Akaz? Akaz, on va prononcer, déjà. À l'écrit, c'est, quand on le lit dans sa tête, c'est toujours facile. là-dedans, il y a un roi, qui est un roi qui n'est pas un bon roi. Vous savez, dans l'histoire d'Israël, il y a eu des bons rois qui ont suivi Dieu, et Akaz, c'est pas un roi qui suit Dieu. Bon, Dieu fait quand même sa volonté, même au travers des rois qui ne le suivent pas. C'est ça qu'il a une vision plus large, plus loin. Mais il voudrait bénir le peuple dans le règne de ce roi-là, et il y a des difficultés parce que les rois ne suivent pas l'Éternel, forcément. Mais Dieu fait quand même son plan plus large. À ce moment-là, en fait, il y a deux autres rois qui veulent combattre un autre roi. Et ils demandent à Akaz d'être leur allié. Et Akaz, il ne veut pas. Donc les deux autres rois viennent et se retournent contre lui en disant « Ah, tu ne veux pas t'allier avec nous ?» Eh bien, c'est un peu un jeu d'échiquier. Genre, ben, on vient, on enlève le petit pion là, qui nous embête, on va mettre un roi qui sera à notre solde à cet endroit-là. Comme ça, après, ben, du coup, s'il est avec nous, ben, on aura réussi notre truc. Tu vois. Vous voyez, c'est pas... Bon, c'est une situation très compliquée. Et là, du coup, ils viennent contre le peuple. Et Akaz et le peuple, ils ont peur. Parce qu'ils ont, voilà, ils voulaient juste pas s'allier avec eux et ils se retrouvent en guerre. Et là, l'Éternel, il veut rassurer Akaz et le peuple. Et il dit que ça va aller. Il va être avec eux. Akaz, il a du mal quand même. Bon, il ne suit pas Dieu, alors il n'a pas l'habitude d'entendre sa voix ni d'obéir. Donc, ce n'est pas facile. L'Éternel, donc Ésaïe 7, verset 10, « L'Éternel parla à nouveau à Akaz et lui dit, « Demande en ta faveur un signe à l'Éternel, ton Dieu, demande-le, soit dans les lieux bas, soit dans les lieux élevés. » Akaz ne veut pas, je ne demanderai rien, je ne tenterai pas l'Éternel. Et alors, Ésaïe vient et il n'est pas très content de la part de Dieu. Et Ésaïe dit alors, « Écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes que vous lassiez encore celle de Dieu ? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. » Ensuite, la prophétie continue, et ça concerne, la suite en tout cas, concerne davantage le temps du moment où Ésaïe parle. En tout cas, le Seigneur a parlé. Et il a parlé à ce moment-là qu'il est au milieu d'eux, dans une situation difficile, dans une situation très défavorable. Ce n'est pas Noël, là. Ce n'est pas on prépare la fête avec les cadeaux. Emmanuel vient dans un contexte très difficile. La première mention, c'est un contexte où déjà on ne comprend pas grand-chose. Les peuples, ils ne savaient pas... Ils ne savaient même pas qu'est-ce qui se passait, en fait. Eux, ils subissent. Ils sont pas, c'est pas une dimension facile où on peut dire chacun est maître de son destin. C'est une situation où les nations sont en train de trembler, les rois, les circonstances sont là, et il y a des choses vraiment incompréhensibles. Mais Dieu promet qu'il est là, au milieu d'eux, malgré ça. Malgré le fait que Akaz, c'est un mauvais roi, qui ne suit pas l'Éternel, Dieu dit « Je suis quand même là, je suis au milieu de ce peuple ». Là, on n'est pas dans la période de Noël, au contraire. On est dans la période de Pessah. On est sur la fin de Pessah. Ça finit mardi, je crois. Donc Pessah, c'est la Pâque juive. Nous, on fête deux Pâques. On fête Pâques sur le calendrier français-romain et on fête Pessah du calendrier juif. Des fois, ça s'est rapproché, là, c'est très éloigné. Dans les dates, c'est à cause des différences de calendrier, lunaire, solaire, tout ça. Pessah, c'est le moment de la sortie d'Égypte. C'est le moment où un agneau a été sacrifié pour protéger le peuple de la mort des premiers-nés. Dans Pessah, donc, Jésus est mort pendant Pessah. Donc c'est une fête qui est accomplie quelque part, parce qu'elle a eu son déroulé dans le peuple hébreu, avec des signes qui parlaient de l'agneau de Dieu qui allait venir. Et quand Jean-Baptiste dit « Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », il parle de Jésus. Jésus, il est l'agneau de Dieu. Et vous allez voir en quoi Jésus, l'agneau de Dieu, quel est le lien entre l'agneau et Emmanuel. En fait, dans Exode 12, on peut prendre Exode 12. C'est l'institution de la Pâque, donc c'est le moment où Dieu donne les instructions pour qu'ils vont partir d'Égypte, mais qu'ils soient protégés de la dixième plaie. À partir du verset 3, « Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on la prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois et toute l'assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. » En fait, l'agneau de Dieu, il devait rester un moment dans la maison avec ceux qui allaient l'immoler. Il y a une histoire, ça passe inaperçu. Hein. Je ne sais pas qui savait ça. Fabienne, Louise, deux, trois quand même, bravo. Donc, moi je sais cette histoire parce que en fait, quand ma famille a rencontré la famille de Yuen, c'était dans un contexte d'une réunion pour Pessah. Et à la réunion pour Pessah, où ils ont rencontré, mes parents ont rencontré les parents de Yuen, et du coup après on s'est rencontrés, ils avaient trouvé, quelques jours avant leur célébration, ils ont trouvé un agneau dans une rue, au milieu de la rue. Un agneau, tout petit comme ça, qui bêlait au milieu de la rue. Il était tout seul, sûrement un temps de... Où vous savez, c'est à Digne-les-Bains, c'est en Provence, donc il y a les moutons, ils vont, ils viennent, ils vont dans les pâturages. Mais enfin, quelques jours avant Pessah, ils trouvent un agneau comme ça. Et ils ont gardé cet agneau dans la maison et ils l'ont nourri pendant 3 ou 4 jours, avant que ce soit le temps de leur célébration. Et ils ont fait la célébration avec l'agneau qui était là, avec eux. Et j'ai toujours trouvé cette histoire, ça m'a marqué parce qu'en plus, du coup, ils avaient creusé et puis ils nous avaient dit c'est ça qui se passe. L'agneau vivait avec la famille plusieurs jours. Donc pour moi, Emmanuel, Dieu avec nous, forcément, j'ai un lien avec l'agneau que vous n'aviez pas forcément. Mais dans ma tête à moi, c'est un lien qui se fait parce que l'agneau, il a vécu. Il vivait, en fait, chaque année. Aujourd'hui, ça ne se fait plus parce que Il n'y a plus de temple pour faire les sacrifices, donc les Juifs ne mangent de l'agneau pour la Pâque, mais ils n'amènent pas tous leur agneau se faire immoler, parce qu'ils n'ont pas de lieu pour ça. Mais à l'époque, ça se faisait tous les ans, ils vivaient quelques jours avec un agneau, et après ils l'immolaient. Donc, pourquoi est-ce qu'on vivrait avec un agneau quelques jours comme ça ? Pourquoi est-ce qu'on vivrait avec un agneau ? Moi, c'est ma théorie. Hein. Là, ce n'est pas de la grande théologie. Pour moi, l'agneau, il était 3 jours plus le jour où il était immolé. Jésus a vécu une 30aine d'années. Dans Luc, il dit que Jésus avait environ 30 ans au moment où il s'est fait baptiser. Donc, Jésus a vécu une 30aine d'années sur la terre avant de rentrer dans son ministère. Pour moi, c'est comme si chaque jour de la Pâque était une 10aine d'années. Et la dernière décennie, donc entre 30 et 40 ans, il a eu son ministère et il a été sacrifié et il a ressuscité. Mais ça ne répond pas vraiment pourquoi. Pour moi, c'est juste mon parallèle entre la vie de Jésus et la vie de cet agneau qui est là. Mais ça ne répond pas au pourquoi ça se passe. Donc l'idée j'ai lu certains écrits des Juifs, pour eux, c'est que l'agneau devait être dans la famille pour qu'on soit sûr qu'il soit gardé sain et pur. Donc l'idée, c'est qu'ils choisissaient un agneau sans tache, sans défaut, il ne fallait pas qu'il boite, il ne fallait pas qu'il ait une blessure, il ne fallait qu'il ne soit pas déformé, il fallait qu'il soit parfait. Mais s'ils le laissaient au milieu du troupeau, et puis, ah ben oui, j'en ai vu un qui est parfait, et puis 3 jours après, ils viennent, et puis il s'est accroché sur une branche ou quoi, ben en fait, ils n'avaient plus d'agneau parfait à immoler, donc ça aurait été embêtant. Donc l'idée, c'est qu'ils le choisissaient, et ils le gardaient avec eux pour être sûrs qu'il soit toujours parfait, toujours sans défaut. Pour nous, pour Jésus, ça fait un écho avec le fait qu'il a grandi dans une famille juive, qu'il a éduqué selon la Torah. Il a grandi en suivant les règles de la Torah. Il a suivi à chaque chose. Il allait à chaque fête, il faisait chaque Shabbat, chaque règle. Ils allaient au temple, il a appris à lire la Torah. Et de ce sens-là, il est sans défaut. Jésus, il a même dépassé l'enseignement de ses parents. Enfin, il a suivi l'enseignement de ses parents jusqu'au moment où il l'a dépassé. Puisqu'on voit qu'à un moment donné, dans le temple, les parents l'ont perdu. Et Jésus, il était au temple. À un moment donné, Marie et Joseph se disent « Bon, il doit être avec ses cousins. » Puis au bout de quelques jours, ils disent « Ah, mais en fait, non, il n'est pas là. » Et ils retournent à Jérusalem et Jésus est dans le temple. Et Jésus a dépassé même les choses enseignées par ses parents. Mais il a été quand même gardé, comme cet agneau, il a été gardé dans la maison, et il a été gardé pour être sans défaut. Vis-à-vis de Dieu, il fallait qu'il garde la Torah. Mais on peut avoir d'autres pensées par rapport à cet agneau qui est là au milieu. Une des pensées qu'on peut avoir, c'est le fait que cet agneau qui était là dans la famille, il était vraiment là, quoi. Il faut vivre en fonction du fait d'avoir un agneau. Dans l'histoire de la famille de Yuen, il était minuscule, l'agneau. Mais en fait, un agneau âgé d'un an, c'est quand même... C'est pas un bébé, hein. Moi, dans ma famille, on avait des moutons quand j'étais petite. Alors, un an, c'est pas un agneau. En fait, nous, on dirait pas que c'est un agneau. Parce qu'un agneau, on trouve ça trop mignon. Mais en fait, un mouton... Enfin, c'est vrai, parce que c'est toujours un agneau biologiquement parlant, c'est comme s'il était ado, mais vous voyez un ado de 15 ans, vous ne direz pas c'est un enfant. Enfin, voilà. Ils ont fait leur poussée de croissance déjà, ils ont mué et tout. Donc vous vivez avec un agneau, et vous vivez, il est là, quoi, dans la maison, il faut s'en occuper, et puis les enfants, ils peuvent s'attacher quand même, même les adultes, on peut s'attacher à cette bête. On peut s'attacher à ça une fois qu'on le nourrit. Vous savez, c'est un animal, il peut être resté un animal, mais à partir du moment où on a un lien, où on le nourrit, il vit avec nous, on le caresse, on le regarde, on s'attache en fait. Et il y avait un attachement. Mais il savait qu'à la fin, il allait être immolé. Mais ça n'empêche pas l'attachement. Et il y avait quelque chose comme ça de symbolique aussi, du fait que ben on n'immole pas quelque chose juste qui est loin de nous. On n'immole pas un agneau qui, bon, on s'en fiche en fait. On immole un agneau qui a compté pour nous. Et Jésus, il est cet agneau auquel on s'attache, auquel même ses disciples sur la terre, nous on s'attache à lui. Des fois, on l'aime, on repense à son sacrifice et c'est dur. Mais imaginez les disciples qui ont vécu 33 ans comme ça avec lui. Ben après, quand il était sur la croix, c'était tellement difficile. Il y avait un attachement profond. Et puis Jésus, il a vécu sur la terre pour de vrai, au milieu des hommes. Il n'est pas simplement une image d'une divinité lointaine. Il y a beaucoup d'idoles et de divinités qui sont là comme ça, très haut, très élevées. Même, vous savez, dans l'Égypte, et puis dans Pessah, on a tout ce côté-là de sortir d'Égypte. Dans l'Égypte, même le pharaon était considéré comme une divinité. Il était à part, il était divinisé, on ne pouvait pas le regarder, on ne pouvait pas trop le toucher. Il y avait des règles très spéciales. Nous, on pense déjà au code de protocole des rois de France ou quoi, mais c'est un niveau encore largement supérieur. Il y a un côté vraiment malsain de divination de la personne. Et puis les idoles comme ça, il y a pas de contact avec l'humain. C'est quelque chose de supérieur, d'au-delà. Et puis vraiment, il y a une grande différence. Mais Jésus, il est venu marcher au milieu des hommes. Jésus, il est Emmanuel, il est Dieu avec nous. Il est Dieu avec l'humanité. Il est venu marcher au milieu du monde. Il est venu comme enfant et il a grandi avec des règles, avec des choses à faire. Il a connu les joies, mais il a connu les difficultés. Et il a connu le deuil. Souvent, quand on pense à Jésus au deuil, on pense à Lazare. Parce que bah, c'est celui qui est le plus expliqué. Jésus pleura, mais Jésus, il savait qu'il allait quand même le ressusciter, Lazare. Donc quand même, pour nous, c'est quand même un peu éloigné de l'idée du deuil que nous, on vit. Mais en fait, à partir du moment où Jésus il est dans le temple et que Joseph et Marie viennent le rechercher dans le temple après l'avoir perdu, il n'est plus jamais fait mention de Joseph. Et donc la plupart des théologiens et des historiens même pensent que Joseph est décédé avant que Jésus rentre dans son ministère. Donc ça veut dire que dans son adolescence, dans le fait d'être jeune adulte, Jésus a connu le deuil de son papa terrestre. Il était certain d'avoir son père céleste, mais il avait un père terrestre qui lui a appris à faire les choses qu'il savait faire, qu'il a emmené au temple. Jésus était un homme avec son affect. Et Jésus peut comprendre tous les aspects de nos vies. Il comprend le deuil. Il comprend qu'est-ce que c'est de grandir sans quelqu'un qu'on aime. Et il peut comprendre chacun d'entre vous dans la façon dont on vit tous des deuils, plus ou moins difficiles. Mais là, ça fait partie du cycle de la vie. Et c'est quelque chose qui profondément marque l'humanité. Parce que à la fois, ça fait partie du cycle de la vie naturelle, et en même temps, on n'est pas fait pour ça. On a beau dire on était préparé, on n'est jamais préparé. On a beau dire la personne était âgée, elle a eu une belle vie, on ne sait pas pourquoi. Ça a beau, oui, ça console, mais ça ne console pas. Et puis, il y a tous les autres moments où c'est plus dramatique, plus soudain, plus difficile. Et ça, ben, Jésus, il l'a connu. Il est vraiment Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous, celui qui peut compatir à tous nos deuils, à toutes nos difficultés. Il peut compatir à tout ce manque de lien soudain, au fait de pas comprendre les choses. Dans l'humanité, Jésus est vraiment avec nous. Il a compris, il comprend encore aujourd'hui. Je vais peut-être prendre déjà un temps de prière par rapport à ça, puis je vais continuer après. Seigneur, je veux vraiment t'amener chacun au milieu de nous qui traverse une période de deuil, qui est dans un temps difficile, que ce soit un deuil de quelqu'un de proche ou quelque chose de vraiment difficile qui est en train d'être traversé là pour l'instant, en ce moment. Et on te demande, Seigneur, que ta révélation vienne, Tu es Jésus, tu es Emmanuel. Tu es Emmanuel, Dieu avec nous. Tu as marché au milieu de nous, tu n'es pas un Dieu lointain. Je prie, Seigneur, que tu viennes te révéler à chacun. Viens révéler ta présence, Seigneur, dans les choses difficiles. Viens manifester ta consolation. Il n'y a que toi qui peux faire ça, Seigneur. Il n'y a aucun mot qui peut venir consoler là où il y a un manque. Je te demande, Seigneur, que tu fasses ton œuvre, une œuvre surnaturelle, en dehors de nos capacités à nous. Parce que tu es Dieu et tu t'es fait homme. Tu es venu marcher au milieu de nous. Alors merci Jésus parce que tu es là avec chacun et tu es là dans les moments difficiles, dans les changements de saison, dans les temps où on voit des proches être loin, être séparés par la maladie, par la mort. Tu es là Seigneur. On demande Seigneur ta consolation et que tu relèves Seigneur là où certains sont abattus. Jésus viens Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Seigneur. Dans ma vie, il y a eu un moment où j'ai vraiment senti que Jésus était avec moi. Et en général, c'est les moments où c'est plus difficile, où en fait finalement c'est le moment où on peut réaliser qu'il est vraiment là. Et donc, je vais faire l'histoire assez courte, mais j'ai traversé un temps pas facile, un temps de désert dans ma relation avec le Seigneur. Il y avait différentes choses qui m'avaient éloignée. C'était, vous savez, le lien, c'est quelque chose de... Il faut l'entretenir tout le temps, quoi. Sinon, il y a quelque chose... Et j'étais... assez loin à ce moment-là. Et puis, je continuais quand même à croire en Dieu. Ça, il n'y a pas de souci, en fait. Il y a plein de choses où on sait juste qu'on est un peu loin, qu'on n'a plus ce côté-là vivant avec le Seigneur. Et puis, dans ce contexte-là, j'étais à Réveiller les Héros. Donc, vous savez qu'avec Youen, on fait partie de l'équipe, des organisateurs de Réveiller les Héros, des directeurs. Et donc, c'est un camp pour jeunes. Et on le fait tous les ans. Et il y a des années où on est en feu. Puis cette année-là, moi, j'arrivais et j'avais ce cœur-là. Mais quelque part, en fait, j'ai tellement confiance que le Seigneur, il ne fait pas ça en fonction de moi, mais qu'à chaque fois, il rencontre les jeunes dans cet endroit-là, que je n'avais pas de... J'étais pas vraiment en grande souffrance. J'étais, Seigneur, tu vas faire ce que tu vas faire parce que tu aimes ces jeunes. Et c'est un lieu magnifique pour que tu te révèles à eux. Puis dans notre temps, juste avant d'accueillir les jeunes, on a toujours une journée et demie où on prépare, on finit de préparer, puis on a des temps de prière. Et puis dans ce temps de prière-là, donc c'était Avirail, le mari d'Elvire, et il venait de rejoindre l'équipe. C'était quand ils étaient fiancés. Et puis il a parlé sur la relation avec Jésus. Et pour nous encourager, toute l'équipe, puis il parlait sur le fait que le prophétique, en dehors de Jésus, ça ne servait à rien, quoi. C'est sec. Et puis il a conduit tout le monde dans un temps d'intimité avec Dieu. Et c'était parfait, magnifique pour l'équipe, pour les autres que moi, en fait. Et moi, pendant tout le temps où il parlait, c'est comme si ça venait appuyer douloureusement sur toute cette sécheresse que j'avais. Parce que oui, je pouvais toujours prophétiser sur des gens, je pouvais porter du fruit en fait quelque part. Je pouvais être une bénédiction pour les gens parce que Dieu aime les gens et il veut se révéler. Mais en moi, c'était sec. Et du coup, tout ce qu'il a dit, même le temps de prière après, moi, j'ai fait que pleurer. C'est comme si c'est hors du temps. Vous avez juste, tout le monde vit un temps magnifique d'intimité avec Dieu. Puis vous, c'est comme si c'est juste ça appuie. Alors j'allais pas bien à la fin de cette soirée. Mais un bien qui est bon. Est-ce que vous connaissez ces moments-là où vous êtes dans la présence de Dieu, vous savez que ça va pas, mais qu'en fait ça va, parce que vous êtes dans un temps de retour à Dieu. Donc ça va pas, mais en fait c'est quand même bien. Donc à la fin de la soirée, bon, Elvire, elle avait bien vu que j'étais vraiment pas bien. Donc elle me dit, ça va ? Que dire ? Mais on a l'habitude, réveiller les roses, c'est vraiment, on a l'habitude. On a le droit d'aller pas très bien, parce qu'en fait, on se laisse vraiment travailler par le Seigneur, même quand on est staff. Donc on se laisse, on n'est pas tous là. Et, ah, il faut que tu sois bien pour demain matin quand les participants arrivent. Donc je vivais ça avec le Seigneur. Mais j'étais vraiment consciente que les événements de ma vie m'avaient séparée de la communion, de la fraîche relation avec le Seigneur. Et du coup, j'ai dit au Seigneur, moi, je le fais pas, en fait. Je fais rien si t'es pas là, vraiment vivant dans ma vie. J'avance plus. Je vais rester là, dans cette position-là de prière, jusqu'à ce que tu me montres et que ça soit renouvelé. Je cherchais vraiment le premier amour. Et je me couche là-dessus, sur cette prière, en ayant confiance que le Seigneur va faire quelque chose au travers du camp. Quelque part, moi, j'étais là, j'ai 15 jours, quoi. Et en fait, je me suis couchée vraiment avec cette douleur intérieure de savoir que j'étais encore comme loin de Dieu. Et à 3 heures du matin, j'étais réveillée en sursaut par la présence manifeste de Jésus à côté de mon lit. Il était là. Il était là comme si quelqu'un est là dans le noir et vous sentez qu'il est là. C'est-à-dire, je ne l'ai pas vu physiquement, mais j'ai senti qu'il était là. Il y avait tout ce qui fait qu'une personne est là. Il était là, debout à côté de mon lit. Et il m'a dit, ça va aller, je suis là. Et j'en ai encore les frissons. Et je veux vraiment libérer ça sur chacun d'entre vous. Il y a des moments dans notre vie où on est loin du Seigneur. Ce n'est pas qu'on ne l'aime plus, c'est pas qu'on ne croit plus. C'est qu'on a laissé le premier amour être éloigné, desséché. Mais que chacun d'entre vous puissiez revivre ce temps de sentir vraiment la présence réelle de Jésus dans vos vies. J'ai vécu 15 jours de camp magnifique. Je sentais la présence de Jésus, il était là. Je demandais, Seigneur, tu veux prier quoi sur tel jeune ? Et en fonction de ce qu'il faisait, je le faisais. Et ça a duré les 15 jours, et après j'ai demandé au Seigneur, pourquoi ça ne dure pas plus ? Et puis je crois que vraiment, le Seigneur a fait ça vraiment pour, comme vous savez, on dit qu'il ne faut pas vivre d'expérience, mais on a besoin d'expérience, de vivre vraiment la présence de Jésus réelle, parce qu'il a marché au milieu des hommes par son Saint-Esprit, il est encore là aujourd'hui. Il est vraiment réel. Le ciel, c'est réel. On ne peut pas juste dire, on va vivre... Oui, on vit par la foi. Quand ça ne va pas, on vit par la foi, mais on attend qu'il se révèle pour de vrai, dans la matière, au milieu de nous, dans des guérisons, dans du salut, dans des miracles. Et le Seigneur, après, il m'a dit, je te montre pas ça tout le temps, mais je suis là tout le temps. Mais il est aussi parce qu'il veut nous faire vivre de l'intérieur. Pas juste tout ce que je vois Dieu faire, je le fais, mais aussi à l'intérieur, en fonction de ce qu'il me dit à l'intérieur de moi. Donc après, c'est passé dans une autre dimension. Mais ça reste vraiment quelque chose, je dis, Seigneur. Quand on t'appelle, quand on a un cœur vraiment sincère et qu'on dit « Mais Seigneur, je ne bougerai plus si je ne touche pas qui tu es, que tu ne me révèles pas de nouveau, qu'il y a quelque chose de neuf », il le fait. Il le fait. Et je veux vraiment libérer cette foi sur chacun d'entre vous. Il le fait. Et dans les temps difficiles, parce que là, ce matin, quand on était là, on est là parce que le Seigneur, il veut faire quelque chose dans cette génération. Mais ça ne va pas se passer facilement. Quand Emmanuel il a été annoncé, c'était dans un temps de chaos géopolitique, de guerre, d'angoisse. Quand Jésus est venu, il y avait l'oppression, ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient, ils n'avaient pas d'argent parce que l'argent qu'ils avaient, ils devaient le donner aux impôts. Donc il y avait une espérance pour leur... Tout ce qu'ils faisaient, c'était comme restreint, ils n'avaient pas d'espoir de pouvoir vraiment vivre pleinement et donner un avenir meilleur à leurs enfants. Et aujourd'hui, dans cette génération, on vit ça. Vous savez, cette génération, les jeunes, depuis le Covid, la quantité de dépression chez les étudiants, elle a plus que doublé. C'était 20%, c'était déjà pas mal. Je trouve que 20% de dépression chez les étudiants avant le Covid, tu dis déjà, on avait un petit problème. Aujourd'hui, c'est 46% qui ont des symptômes dépressifs. Il y a quelque chose de cette génération qui est en douleur. Les gens ne veulent plus avoir d'enfants. parce qu'ils ont peur pour la planète. Il y a un manque d'espérance. Il y a une peur pour l'avenir. Il y a des guerres. Il y a eu la guerre en Ukraine. Au début, on est tout feu, tout flamme, on prie tout le temps, tous les jours, toutes les semaines. Après, ça fait deux ans et quelques. Bah, nous, on est loin. Il y a eu la guerre en Israël. La guerre en Israël, c'est un signe pour les temps, quand même. Et là, il y a eu, ça s'est intensifié encore juste au début de Pessah. C'est incertain. Il y a vraiment quelque chose où le Seigneur veut dire, et je crois qu'il l'a dit ce matin dans la louange, il veut réveiller la guerre, l'esprit, la guerre en nous, de dire on va faire la guerre, mais comment est-ce qu'on va faire la guerre ? Déjà, depuis nous, là où on va bien et on a à manger et on n'a pas peur des bombes, c'est des fois pas facile. Déjà, on va faire notre guerre pour nous, pour nos vies, pour nos enfants, pour se lever, pour une espérance. Mais on va se lever dans la prière. On va se lever en disant, Jésus, tu es Emmanuel, tu es au milieu de nous. Tu vas révéler ta vie, tu vas manifester ta vie, tu vas libérer les captifs. Pendant tout ce temps, j'ai hésité. Pendant la louange, je me suis dit, oh, est-ce que finalement je change de thème et on va vers la sortie d'Égypte, Pessah, la mer Rouge, la bataille contre Amalek. Il y en a des choses dans la Bible, des stratégies, des choses qui nous réveillent, qui nous disent, ah oh, voilà, la bataille contre Amalek, c'est la première grosse bataille après la mer Rouge. Et c'est une bataille contre les cousins de lointains. Parce qu'Amalek, c'est un fils d'un fils d'Ésaü. Donc c'est des cousins, en fait, qui deviennent des tribus entières et qui viennent se battre. Et Dieu donne des stratégies. On a besoin de retourner, là, dans la parole, de trouver les stratégies dans la prière, de trouver comment se tenir, vraiment. Mais le Seigneur, au milieu de tout ça, il veut dire « Je suis au milieu de vous ». Je suis au milieu de vous, c'est pas je suis au milieu de vous quand vous faites un pique-nique et que tout va bien. Je suis au milieu de vous dans Ésaïe 7, quand il y a un contexte géopolitique que même chaque humain ne peut pas comprendre. Si on n'était pas les rois et leurs conseillers, on ne comprenait rien à ce qui se passait. Aujourd'hui, au milieu de la guerre d'Israël, c'est difficile de prendre des positions. Au niveau géopolitique, tout le monde qui a ses avis, il y a des choses, la désinformation des deux côtés, c'est difficile. Mais le Seigneur, il a un œil sur son peuple. La guerre, elle est spirituelle, mais elle n'est pas que spirituelle. Hein. La guerre de six jours, ce n'était pas que spirituel. Il y a eu des miracles qui ont fait que le Seigneur, il combat pour son peuple. Et il est là. Et dans ce temps, dans la fin de ce culte, j'aurais vraiment voulu qu'on prenne un temps pour prier spécialement pour Israël. Et qu'on déclare Emmanuel, Dieu avec nous, pour Israël. Parce que c'est dans ce contexte-là qu'Emmanuel a été révélé, dans une guerre d'Israël. Une guerre à l'intérieur en plus même. C'est dans ce contexte-là que Jésus est venu au milieu d'un temps difficile pour Israël. C'est dans ce contexte-là qu'aujourd'hui, il y a des Juifs qui cherchent le Seigneur, des Arabes aussi, des Palestiniens, qui Dieu se révèle. Dans la bande de Gaza, il y a des témoignages magnifiques de Jésus qui se révèle. C'est un temps pour prier pour Israël. C'est un temps pour se tenir et dire, « Ouais, Dieu, Jésus, tu es avec moi, dans ma vie à moi, dans ma vie personnelle. » Et on a du temps pour ça, on passe du temps pour ça et on le cherche. C'est un temps aussi pour dire, « Seigneur, il y a des choses que je ne comprends pas. Au niveau géopolitique, c'est au-delà de moi. » Mais je me tiendrai pour déclarer que Seigneur, tu es Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Tu es là, au milieu de nous, au milieu de cette salle, il est là. Au milieu de votre maison, vous qui regardez là, depuis chez vous ou ailleurs, il est là, il est là, il est là, sa présence est réelle, elle est tangible. Et il est là, à côté de chacun qui souffre, il est là pour les familles des otages, pour les otages et ceux qui sont encore vivants, qu'on prie pour qu'ils reviennent chez eux, pour tous ceux qui souffrent. Il est là.